mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans la station des 100 voix. Voilà, donc nous sommes l'émission mode d'emploi, c'est la mission des chômeurs et précaires. Voilà, vous nous rejoignez ce soir et ce soir nous avons effectivement une émission comme d'habitude un peu impressionnante pour le coup parce que beaucoup de sujets à traiter, principalement sur le problème social et sociétal, on va dire ça comme ça. C'est évidemment tout ce qui concerne la réforme du gouvernement, hein, donc l'indemnisation des indépendants, les nouvelles formes du travail. Surtout aussi les futurs, la révolution numérique, hein, on en parlera également tout à l'heure, c'est un gros dossier. Évidemment tous les sujets qui concernent également la précarité et le chômage dans cette émission. Alors j'ai oublié tous mes devoirs, je rappelle quand même que ce soir vous êtes avec Christophe, Ludo et Gilles au micro et bien sûr Claude à la technique pour l'émission d'AC, Agir ensemble contre le chômage. Je rappelle vite fait tout de suite, mais j'en reparlerai à la fin de l'émission, que demain, une manif des chômeurs et précaires à la Rotonde à 14h à Stalingrad, c'est toujours la marche annuelle des chômeurs, il faut absolument vous y rendre. Et si vous pouvez également pour notre station et nous aider aussi parce que nous avons demandé des dons par l'intermédiaire de notre site rfpp.net. Puisque comme vous le savez, le gouvernement attaque partout hein, et tout le monde, puisqu'ils ont attaqué le droit du travail avec les ordonnances, mais maintenant aussi les emplois aidés, et que notre station va se retrouver un petit peu en difficulté. Donc si vous pouvez nous donner 1 € par personne, ce sera déjà pas mal. Je vous en remercie d'avance. Bien, on reprend cette émission classique, normalement, avec évidemment Christophe, tu avais un petit peu regardé le sujet. Qu'en est-il des puisque apparemment il y a la réforme du chômage qui est en cours hein, puisqu'après la réforme du travail c'est la réforme du chômage et après ce sera la réforme de l'enseignement etc. Qu'en est-il de l'indemnisation des indépendants?
Alors en réalité c'était quand même une des promesses du candidat Macron à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que il y a une problématique en France qui est importante, à savoir que tout ce qui est travailleur indépendant ne peuvent cotiser et asseoir une indemnisation chômage lorsque leur entreprise périclite ou est en cessation d'activité, voire redressement judiciaire. Il faut savoir aussi qu'il s'agit de micro ou d'entreprises modestes, hein, c'est pas des, on n'a pas affaire à la multinationale, donc on est devant des patrons qui, du jour au lendemain, ont plus grand chose. Donc ça posait un problème de fond, hein. D'autant que on prône la valeur travail et la valeur de la liberté d'entreprendre dans ce gouvernement et les gouvernements précédents. Donc en fait, l'idée c'est d'accorder effectivement une indemnisation en cas de perte d'activité, puisque s'il n'y a pas assez d'activité dans votre entreprise, il faut que la protection sociale soit plus fondée sur l'individu que sur son statut. Hein. C'est ça l'idée, hein. C'est pas parce qu'on est patron qu'on est riche, qu'on est son propre patron, qu'on gagne des milliers et des cents, hein, sachant qu'une entreprise, ça peut avoir des hauts et des bas. Quelque part, c'est de dire, bon ben, on va promouvoir quand même l'entrepreneuriat. Sauf que on s'aperçoit dans les premières pistes explorées que déjà, il y a quand même près de 3 millions de personnes qui sont dans ce type de dispositif travailleurs indépendants classiques, c'est-à-dire dans les travailleurs indépendants classiques, hein, ça fait du monde. T'as des dirigeants assimilés salariés, t'as des exploitants agricoles. Alors, tu sais, le monde agricole, c'est pas n'importe quoi. Hein, donc du coup, et ben comme c'est beaucoup de monde, et ben devine ce qu'a fait le gouvernement. Je vous pose la question pour un peu lancer le débat.
Non, mais je t'écoute.
Eh bien, il a demandé à l'inspection générale des finances et des affaires sociales de faire un rapport. Donc, quand on demande à des hauts fonctionnaires spécialisés dans l'action sociale, dans le droit social ou la finance de faire ça, c'est que navigue dans le flou. Enfin, alors, l'idée, on est bien, bien loin de l'indemnisation complète de l'ensemble de ces travailleurs indépendants, qui est 3 millions de personnes, je le rappelle. C'est en fait de faire une allocation forfaitaire de 700 à 800 euros sur voilà des revenus sur une base infra-annuelle et uniquement à ceux qui exercent à ce titre exclusif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres types d'activités. Donc en fait, en réalité, et sachant que il faudrait avoir une durée d'activité préalable qui n'est pas encore définie, parce qu'une boîte, ça se crée en un an, mais le temps de la rentabiliser, c'est minimum 3-4 ans, 5 ans. C'est on est vraiment dans le flou. Donc en gros, ça concernerait 50 à 60 000 personnes par rapport aux 3 millions. Les promesses du candidat Macron fondent comme neige au soleil. Pourtant, on est en hiver.
Oui, en fait, pour rebondir hein, sur cette vaste problématique, c'est qu'en fait, le gouvernement en fait ne veut pas soutenir. Ne veut pas qu'une allocation chômage soutienne l'activité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu victime, enfin, c'est pas lui proprement dit, mais des multiples réformes qui datent des années 2000 qui ont favorisé la micro-entreprise, typiquement l'auto-entrepreneur. Donc, l'auto-entrepreneur, c'est vachement bien, hein, Stéphane et tout, dans le monde capitaliste. Enfin, la moitié d'entre eux ne dégagent pas au moment de leur création, ne dégageaient pas de chiffre d'affaires. Et, globalement, hein, les revenus sont quand même, minime, ouais. En dehors du commerce, je crois. Et donc du coup, le candidat Macron se retrouve dans une problématique où, un, il a à gérer effectivement des gens qui ont tellement pas les moyens de vivre que ça pourrait faire une ouverture de droit en fait en cours, alors qu'ils sont en cours c'est-à-dire qu'ils pourraient déclarer des interruptions d'activité. Pour toucher l'indemnité, donc il ne se résout pas à ce type de solution. Et il a un deuxième problème sur les bras, c'est en fait les faux indépendants entre guillemets, c'est-à-dire les indépendants qui sont complètement dépendants du donneur d'ordre, dont typiquement le chauffeur Uber, qui en réalité est en indépendant, mais
le VTC,
le VTC. Oui.
Et du coup, là, pour ces gens-là, il y a un vrai souci parce qu'il n'y a aucune protection sociale.
Absolument.
En fait, ou peu de protection sociale.
Absolument.
Du fait de la faiblesse des revenus et évidemment pas de couverture au chômage en l'occurrence, sachant que la perte d'activité n'est pas de leur fait. Et donc là, il y a quand même quelque chose à creuser, hein, qui sera au-delà de, à mon avis, certes d'une durée d'activité, mais quelque chose à creuser au-delà simplement de la protection de la protection contre le chômage, mais de la protection au sens large, retraite, maladie, etc. puisque vous êtes indépendant, vous versez vous-même vos cotisations. Et donc voilà, donc je pense que c'est un chantier qui est l'intérêt c'est qu'au moins voilà, c'est une petite pierre qu'on a commencé à prendre en compte ces nouveaux types de travail, c'est-à-dire qu'en fait l'espèce de portabilité des droits dont parlaient les syndicats à une certaine époque. Bon, bah, il y a une timide amorce.
Mais c'est un vrai débat idéologique parce que où s'arrête la protection du salarié et de l'individu dans une société donnée au nom de la liberté d'entreprendre.
Oui, bien sûr.
Et sachant que ça c'est contraint sur l'offre du marché. Donc là, les libéraux sont devant une grande contradiction qu'il va falloir.
Ouais, mais alors c'est ça qui est drôle, c'est que finalement il y a des libéraux qui trouvent finalement le revenu minimum très très bien, parce qu'en fait ça permet de soutenir la faiblesse des salaires en quelque sorte. C'est-à-dire que la collectivité
vient à
la baisse des salaires.
De fait,
c'est ça finalement, c'est que l'État. Et donc évidemment, on ne peut être que contre cette espèce de, enfin, de mon point de vue. Je parle pas pour l'ensemble ni de cette radio ni de cette émission, mais enfin que contre un espèce de voilà de SMIG, de RMI aménagé, de RMA aménagé, qui maintient des gens dans une espèce de pauvreté,
précarité,
quoi, il faut le dire.
Hein. Ouais, tout à fait.
Mais ça fait penser un petit peu à cette situation des gens qui s'installent un petit peu comme médecin ou comme orthophoniste ou comme paramédical ou médical, hein. Qui au moment de leur installation, évidemment, ils ont un an pour se faire, hein, donc dégager un petit peu d'argent, voilà. Et que l'année d'après, les impôts tombent en fait avec un an de décalage, ce qui fait qu'à un moment donné, si en 2016 par exemple, le médecin n'a rien fait comme bénéfice, il va être obligé de payer 60% de ce qu'il a fait l'année d'avant.
Voilà, et de ce point de vue-là, la réforme, enfin le prélèvement à la source, c'est quand même un avantage, parce que pour les indépendants, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs pour les allocations sociales aussi, puisqu'en fait, parfois, il faut attendre, par exemple, pour retoucher le RMI un an sans revenu, donc c'est quand même un peu long, parce qu'on a le temps de voilà de sombrer et donc sans revenu du tout, hein, c'est-à-dire avec plus d'allocation.
Enfin, non, mais plusieurs mois avant une nouvelle déclaration trimestrielle des ressources.
Oui, si on est déjà dans le dispositif, rentre dans le dispositif, un an, on n'a pas grand chose quoi ou rien. Donc c'est vraiment pour la pauvreté et on retrouve les mêmes ce même problème de décalage entre ouverture des droits et puis ou imposition. Hein. Donc l'administration peut être plus réactive.
Alors c'est vrai que en général quand même les salariés comme les indépendants sont très taxés en fait d'une façon générale, hein, je veux dire même je crois que c'est autour de 60%.
Alors ça dépend qui. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où ils payent leur retraite et leur cotisation, il y a déjà la moitié de ce qu'ils gagnent qui part en fait, hein, dans leur propre cotisation.
Absolument.
Alors après, c'est vrai qu'il y a certaines professions comme le médecin qui sont plus taxées, sachant qu'il y a que le système lui-même est compliqué à gérer puisque il y a des gens qui réussissent très bien et qui n'ont pas besoin de cotiser autant en fait, hein. C'est ça, mais ça c'est le principe de solidarité.
Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a actuellement j'ai entendu ça à la radio sur France Inter. Il y a apparemment un appel le ministre de la Santé appelle les médecins à aller dans des endroits qui sont déserts médicaux. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas trop de compensation derrière. C'est-à-dire qu'on va simplement leur demander d'aller dans une province abandonnée par tous, hein, pour s'installer. Et il n'y aura pas d'infrastructure de genre école pour s'ils ont des enfants. Et même pas de sous. Enfin, il y aura peut-être un peu de porc pour la soif. Mais il n'y a pas de véritable, de véritable cadeau, je veux dire, pour que
en termes de revenus, parce que finalement, ça serait plus intéressant, ça serait assez équitable que des gens qui se dévouent en quelque sorte en campagne, sachant que les campagnes ne sont pas toujours très riches.
Tout à fait.
En termes de clientèle, c'est pas des zones.
Mais là, c'est encore une contradiction idéologique, à savoir l'intervention de l'État. Et en matière de politique de marché d'offre et de demande, c'est être keynésien.
Ouais, mais enfin, on parle de santé là. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que en principe les dépenses de santé sont, enfin ou plutôt il y a des remboursements, donc les dépenses sont en quelque sorte plafonnées de fait, et donc le revenu du médecin dans des zones pas très riches est lui-même plafonné. Donc je veux dire, c'est pas un marché non plus quoi quelque part. Mais bon, ceci dit, je suis d'accord avec toi qu'il faut bien un soutien à la politique de santé.
Alors, puisqu'on était sur la taxation des gens qui sont effectivement à leur propre compte, on peut aussi parler, alors c'est peut-être toi qui vas t'en charger, Ludo, un petit peu de la taxation des emplois courts, qui sont effectivement, donc ça veut dire, alors si j'ai bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure hors micro, c'est-à-dire que même ceux qui travaillent partiellement sont taxés également de façon
personne n'est taxé ou très peu c'est juste qu'encore une fois les libéraux sont nos amis le savez et donc ils viennent à notre rescousse pour dire c'est une bonne chose et donc
tout à fait.
Donc stupéfaction parce que j'ai trouvé cet article dans les Échos. Vous voyez,
qu'est-ce qui se passe?
Ça
ne
veut pas dire que les juristes ne sont pas de gauche, hein. Les juristes
sont
les échos, mais voilà, parce qu'il faut bien manger pour vivre. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a une réforme en Italie. Vous vous souvenez tous de la réforme de Matteo Renzi, une réforme extraordinaire qui allait donner de l'emploi à tout le monde, hein, grâce à, comment on appelle ça, un CDI progressif, avec des droits progressifs.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'en réalité, hein, c'était la grande théorie des libéraux. Vous savez, il y a les insiders, donc les gens qui ont des droits acquis d'une certaine façon, et les outsiders, donc en fait les salariés qui sont en CDI, et les outsiders, c'est-à-dire ceux qui voudraient rentrer sur le marché du travail et donc qui sont vraiment discriminés parce que les insiders gardent leur position acquise. C'est ça l'idée, hein, puisqu'on serait dans des vieilles sociétés
théoriques
catholiques hiérarchiques, vous voyez, c'est ça l'idée, hein, c'est-à-dire qui à statut en fait, anciennement à statut. Donc il faut un peu brasser tout ça parce que faut une fluidité sur le marché du travail.
Ah, la liberté. Voilà.
Ben oui, c'était le Macron avant l'heure, hein, en fait, hein. Et donc ils ont rien trouvé à mieux d'abord de prendre une loi qui s'appelle le Jobs Act. Donc bravo,
c'est
pour l'inspiration.
Chose, ça,
je veux dire en Italie, hein, oser prendre un anglicisme, c'est déjà pas mal. Mais enfin bon, peu importe. Et de mettre en place ce fameux contrat à durée indéterminée à protection croissante avec une indemnité de licenciement variant de 4 à 24 mois de salaire selon l'ancienneté. Parce qu'il veut dire que vous êtes en CDI, mais on peut vous virer en réalité, hein, donc c'est un faux CDI. Voilà, alors avec 2 années de recul, disent les économistes qui se sont penchés sur la question, il devient possible effectivement d'estimer les effets de ces deux réformes.
Et donc, ces
deux économistes italiens. Et du coup, alors la réforme aurait bien commencé à réduire la dualité du marché du travail en induisant une hausse de 30% des recrutements sur des contrats permanents.
Bravo,
extraordinaire. Mais il y a un petit problème. Alors oui, parce que l'effet quand même, c'était de faire un sas entre les travails temporaires, donc et ce type de contrat.
Vous travaillez 2 mois, on peut en rajouter des heures, vous gagnez ceci,
ou un peu plus. Donc effectivement, il y a eu un peu moins de travailleurs temporaires. Les résultats positifs de ce dispositif seraient dus en fait à l'exonération des charges au profit des contrats permanents. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet d'aubaine.
Tout à fait.
Vers ce type de contrat. Et donc la mesure de flexibilisation aurait joué un rôle significatif, mais nettement moindre. En fait, hein, c'est simplement qu'on a recruté grâce aux exonérations de charges. Et on peut s'interroger, disent les économistes poliment, sur la pérennité des effets observés. L'étude ne portait que sur les données couvrant les années 2013-2015, alors que les exonérations de charges ont depuis longtemps été supprimées. Très franchement, entre nous, et d'après d'autres sources, il semble bien que beaucoup d'emplois ne l'aient pas été, une fois les exonérations de charges parties.
Donc, d'accord. Déjà, on a pas les données de 2016, mais on sait se projeter.
Voilà. Même dès 2016. Bon. Alors.
Mais
du coup,
c'est antilibéral. C'est pas acceptable devant, dans une telle radio, d'avoir un discours antilibéral.
Là, c'est un journal, et puis en plus, c'est les Échos, hein. Donc voilà. Oui. Et en plus, ils sont obligés de reprendre quand même les conclusions économistes des économistes italiens qui ne sont pas des gauchistes.
Ils ont toujours été un petit peu nationalistes, en tout cas.
C'est-à-dire qu'à force d'avoir été rachetés plusieurs fois, etc., d'avoir des plans de licenciement, bon, ça fait réfléchir un peu tout le monde. Alors, on en vient au cas de la France. Parce que la France, vous savez, en fait, c'est une espèce d'Italie en moins ou en plus dans certaines situations. Hein. Donc en termes
c'est
de
pas
dualité.
Pas des spaghettis, mais on fait quand même des pizzas.
Oui, enfin bon, d'accord. Mais je...
Super, merci.
Ça c'est trop classe. Mais bon, peu importe. C'est quand même, je veux dire, on parle de la flexi-sécurité. Un très beau concept. Très beau concept. Du Danemark.
Tout à fait.
Nous sommes d'accord. Mais savez-vous qu'en France, le taux d'emploi de courte durée est le plus élevé d'Europe. Donc je ne parle pas des pays de l'Est, hein, bien sûr.
Pays développés, on va dire. Forte économie.
Voilà. Et c'est le double de ce qui est observé dans un pays comme le Danemark. Ça représente 15% des salariés du privé.
Oh, donc pourquoi ?
Alors, et
un tel chiffre
semble. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et qui semble en effet résulter d'une partie d'une optimisation au détriment de l'UNEDIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les contrats courts font le yo-yo entre
couverture d'assurance sociale, et sociale. Travail.
Dans certains secteurs, un compromis pernicieux s'établit entre employeurs soucieux de baisser leurs charges et salariés prêts à accepter de travailler de manière intermittente, alors que l'assurance chômage compense en partie leur manque à gagner, typiquement sur le modèle des intermittents. À la demande de la Cour des comptes, l'écart entre allocations versées et contributions reçues selon le contrat de travail avait été estimé pour l'année 2013. On en avait parlé ici, je ne sais pas si vous estimez. Le déficit avait été de près de 10 milliards d'euros. Côté contrat court, c'était un peu biaisé, moi, comme étude, je trouve, puisque par définition, un CDI, si vous faites un ratio, ce que coûte à l'UNEDIC, forcément, un CDI coûte rien, puisqu'il y a très peu de recours. Mais voilà, c'était pour dire qu'en fait, il y avait une accélération des contrats courts et donc une accélération des recours au droit. C'est vrai. Et couvert par l'excédent du côté CDI, forcément, excédentaire. Donc, tant déplaise au MEDEF, écrivent les journalistes, corriger ce déséquilibre en faisant davantage peser le coût de l'assurance chômage sur les entreprises abusant des contrats courts permettrait de mettre en place un allègement des charges au profit des CDI et, si l'on doit l'expérience italienne, de réduire significativement par ce biais la dualité du marché du travail français, ce qui signifie, et alors c'est pas un journaliste qui écrit, pardon, c'est Frédéric Charbonnier qui est professeur à Sciences Po, Toulouse, et qui est chercheur à la Toulouse School of Economics, qui n'est pas une petite école,
c'est
très sérieux,
c'est un économiste.
Et ce qui revient quand même là, pour le coup, à réguler le marché du travail par la taxation, non par la libéralisation, et dont on sait que ça a un effet très dissuasif, et par construction, un effet positif sur puisque on augmente en fait la stabilité de l'emploi et puis des salaires qui vont avec, hein, ce qui est pas une mauvaise chose en soi pour l'économie. Donc voilà, donc on attend la prochaine réforme de l'UNEDIC et puis on verra dans quelle à la fois la prochaine réforme de l'UNEDIC et la réforme de l'UNEDIC. On verra de quel côté se situe le gouvernement Macron et dans quel sens ira la balance. Ben, moi je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est un mot. Je veux dire au Danemark, d'accord, ça se passe peut-être bien, mais c'est un mot. En France c'est un mot creux jusqu'à maintenant. On a piqué la flexibilité et on n'a pas pris la sécurité.
Mais non.
Où
mais
on y va très lentement. Voilà. Enfin,
donc c'est la flexi sans sécurité.
Exactement.
C'est la CFDT. Voilà.
Tu as merci petite chanson.
Quand Jean-Marie de Nantes revint de la Trinité, il déposa son sac aux pieds de son hôtesse. Dans un bar pavoisé par toutes les promesses, le bistrot de Simone, à l'autre bout du quai. Pour prendre un grand coup d'innocence,
le mois FPP. Plusieurs rendez-vous vous sont proposés pour venir soutenir la radio. Donc 10 décembre à partir de 17h, soirée de soutien à Fréquence Paris Pluriel avec projection de petits films contre le grand capital de Nina Fort et Julien Brigaud et suivi d'une soirée concert avec Luli and the Surfing Rogers, The Mercenaries et Diego Palavas, punk rock assuré au CICP 21 rue Voltaire, dans le 11e métro, Nation et le PAF, c'est 5 euros.
Et oui, donc cette émission reprend, c'est l'émission mode d'emploi, une émission sur les chômeurs et précaires, de Agir ensemble contre le chômage. Tous les vendredis, les équipes changent, mais le sujet reste à peu près identique. Vous venez d'entendre, donc la première chanson, c'était « Ça n'a pas d'importance », chantée par notre amie et fabuleuse Frédéric, que vous avez déjà entendu dans cette émission, qui a une voix absolument superbe, on peut le dire. Je tenais aussi à répéter, je tenais également à dire que j'ai commencé cette émission un petit peu rapidement, mais je suis quelqu'un de très énervé, puisque l'empire macronien est toujours présent, et nous vivons quand même dans une situation un peu difficile, hein, ici même d'ailleurs. Donc je reprends avec Ludo et Christophe au micro. Bonjour à tous les deux, merci d'être là.
Bonsoir.
Et Claude
bonsoir
à la technique. Je rappelle également juste une petite annonce que j'ai donnée déjà en début d'émission. La manif des chômeurs et des précaires demain à la Rotonde à 14h à Stalingrad. Il faut absolument y aller, c'est la marche annuelle des chômeurs et précaires. Plus on sera nombreux et plus on pourra se faire entendre. Voilà. Donc on va reprendre cette émission puisque nous avons déjà à plusieurs reprises parlé, d'ailleurs différents candidats à la présidentielle en ont parlé également pendant les débats, donc d'une possibilité de perte d'emploi dans les 20 ans qui viennent à cause des robots. Donc c'est en fait ce qu'on appelle la révolution numérique, hein. Donc Christophe, t'as suivi un peu le sujet. Qu'en est-il exactement aujourd'hui?
Alors on avait déjà évoqué dans un dossier assez complet l'évolution de l'intelligence artificielle et j'avais d'ailleurs raconté l'histoire de petits robots en Suisse qui à travers des algorithmes apprenaient avec une main artificielle à saisir des objets comme un enfant. On croyait que c'était la science-fiction, j'ai dit mais non, ça c'est que le début et l'intelligence artificielle va tellement être puissante, la fuite de données numériques va tellement submerger que ça a complètement transformé nos sociétés dans son approche, nos modes de pensée, nos savoir-faire, nos savoir-faire-faire, nos savoir-être aussi, parce qu'on pourra avoir, et aussi dans tout ce qui est la panoplie de l'emploi, que ce soit dans l'acquisition d'un savoir-faire technique, etc. Donc aujourd'hui, le débat est dans l'Europe, et il rejoint tous les pays hautement développés. D'ailleurs, à ce propos, pourquoi j'en parle? Parce que il y a eu une étude du cabinet McKinsey qui estime que l'automatisation grâce aux robots pourrait avoir des conséquences sur 60% des emplois dans le monde. C'est énorme, C'est-à-dire que l'auto-minimisation, ça pourrait être 375 millions de personnes forcées de changer d'emploi d'ici à 2030. Et la dernière fois que je vous avais parlé de ça, on avait fait ça en parallèle avec le revenu de base, le revenu universel. Parce que un des financiers de Google avait donné de l'argent à des familles nigériennes extrêmement pauvres pour, en échange de temps libre, du fait de cette automatisation. Il expérimentait donc le revenu universel. C'est une véritable révolution dans la formation des travailleurs qui va se faire, hein, puisque on estime que ça va toucher beaucoup de monde. Alors, en Chine, le premier pays touché, à votre avis, c'est quoi ? C'est qui ?
En Chine,
Ben c'est la Chine. C'est la Chine, ça ouais. pourrait être entre 12 et 102 millions de personnes. C'est énorme, hein. Pour 1 milliard d'habitants.
Alors,
chinois,
pour que l'auditeur comprenne bien, et moi-même d'ailleurs, parce que j'ai pas tout compris.
C'est de quoi on parle, en fait.
C'est, ouais, de quoi on parle. C'est une perte d'emploi ou c'est des emplois qui devront être, on voudrait que les gens changent d'emploi, c'est-à-dire se forment pour éventuellement aller à la numérique.
C'est quelle technologie? Parce qu'il peut y avoir, par exemple, le big data.
C'est les données numériques et c'est la robotisation. C'est les robots.
Donc, est-ce que ça veut dire que ça a une perte d'emploi pour 60%
Perte d'emploi, ouais.
D'accord, une perte d'emploi.
C'est une transformation de l'emploi pour 60% des salariés.
Oui.
Du fait de l'accès à la connaissance, à la technicité, à la manière de l'employer.
D'accord.
Mais, près de 375 millions d'emplois dans le monde qui sont directement menacés d'ici à 2030.
D'accord.
C'est énorme.
C'est énorme, effectivement.
Donc, en Chine, ça pourrait être un vecteur révolutionnaire, hein, puisque l'étude parle de 12 à 102 millions d'emplois menacés en Chine. C'est sur 1 milliard d'habitants. C'est énorme, hein, on ne s'en rend pas compte. Mais
pourquoi la Chine, en fait, en premier ?
Parce que la Chine est le bassin industrialisé, le plus industrialisé, sur tout ce qui est petite robotique, petit électroménager et produit de...
Donc les robots remplaceraient la main-d'œuvre chinoise.
De manufacturisation, mais élémentaire. On n'est pas dans la haute technologie comme Taïwan avec les puces, l'électronique. Ça ne veut pas dire que les Chinois ne l'ont pas, ces types. Hein. Attention. Mais ils sont le grenier de la consommation... comment te dire
intermédiaire.
Ça voilà.
C'est-à-dire, en fait, ils en sont là où nous, on était dans les années 60, en fait, où tu consommes de l'électroménager domestique, en quelque sorte.
Voilà.
Ou des,
non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont le grenier intermédiaire de la conception de la fabrication du petit moyen électroménager et tout ce qui est produit de confort. Voilà. C'est la haute technologie va être pour Taïwan. Enfin,
c'est une division.
C'est vraiment synthétique et très grossier ce que je dis, hein, parce que certains économistes chinois diraient non, c'est pas vrai. Dans telle province, on a tel pôle d'excellence. Ils auront totalement raison. Hein, mais voilà. Donc ça, c'est une véritable chose, sauf que l'étude, on parle d'abord de transformation majeure, puisque le cadre de leur travail pourrait théoriquement être automatisé en utilisant les technologies actuelles. Hein. Ils ont fait en fait une projection sur des emplois de bureau et des robots, des images virtuelles qui remplacent les tâches et qui peuvent être faites comme le classement, comme signer un document numérique ou signer un document et être envoyé par un courrier. Les robots, ça, actuellement, peuvent le faire. C'est ça le problème, hein, parce que ça concerne beaucoup d'emplois dans le domaine du service. Et donc, la collecte et le traitement des données sont aussi deux autres catégories d'activités. Tu parlais du big data. Hein. C'est ça. Alors ça, c'est une première étude qui pourra avoir de multiples facteurs. Et je pense qu'on va ouvrir le débat après cette première synthèse de cette étude. Hein. C'est... Il y aura l'augmentation des revenus de la consommation dans les économies émergentes. Faites ça. Il y aura le vieillissement de la population d'ici 2030 qui pourrait accroître la demande des emplois, hein, notamment parce qu'il y aura beaucoup de plus de 65 ans. Il y a le développement et le déploiement des technologies qui devraient permettre de créer de nombreux emplois, mais ça sera des emplois extrêmement qualifiés, de type ingénieur, technicien supérieur. Mmh. On sera plus dans la personne peu ou pas du tout qualifiée. Les infrastructures dans le bâtiment resteront et enfin les investissements dans les énergies renouvelables qui permettraient de manière générale de contrer et d'offrir d'autres types de marchés émergents pour nos économies industrialisées. Mais ça pose quand même un sacré débat. Et ensuite, je reviendrai sur les propositions qui sont avec les débats qui ont eu actuellement au niveau de la Commission européenne.
Mais on est en fait en plein 1984, j'ai l'impression aussi, parce que bon, dans 1984, il parlait principalement de la surveillance, évidemment, mais dans la technicité de plus en plus importante, de plus en plus forte, hein, puisque les on sait que les robots vont devenir de plus en plus intelligents. C'est-à-dire qu'avec une voix même métallique et qui
c'est surtout faire... le réseau en fait, oui, le réseau de données qui provoque effectivement cet effet, parce que effectivement, comme quand même beaucoup de choses numérisent à vitesse grand V en fait, hein, y compris enfin des choses très sérieuses comme les banques, ça fait un moment que c'est le cas, mais ou les histoires, ou les assurances, et puis que nous-mêmes nous sommes des grands utilisateurs, on a un flux de données qui est massif et qui se massifie en fait. Et donc tout l'enjeu des commerciaux, j'allais dire, j'appelle ça comme ça, c'est d'être capable d'analyser le flux de données pour obtenir un maximum d'informations sur les groupes d'individus, en fait, donc qui fréquentent par exemple Internet. Parce qu'effectivement, hein, la grande question, je sais pas, au début d'Internet, c'est qu'il y a une telle masse de données, c'est qui peut les analyser. Et qui peut les analyser, à part des robots, enfin entre guillemets. Donc,
c'est des big
sons, futures intelligences artificielles, bien sûr. Mais à travers des méthodes qui sont quand même très sophistiquées, il faut les programmer.
Il faut des grands calculateurs,
voilà. Et du coup, on a à la fois une capacité à déterminer, à obtenir beaucoup d'informations des différents groupes qui fréquentent Internet. Et la question, c'est toujours à quelle fin? Sachant que ça reste pour le moment une finalité commerciale, et la question aussi c'est jusqu'à quel point aussi, puisque à quel point on peut affiner en quelque sorte donc il y a cette question en fait, elle en est une autre, c'est quelle finalité commerciale derrière, pour quel produit.
Tout à fait. Non,
donc c'est quand même c'est une espèce d'économie entre guillemets virtuelle, hein, qui se met plus ou moins en route, mais bon, après tout, ça existe déjà, je sais pas, dans les supermarchés où on essaye de récupérer, de profiler tout, de déterminer le profil des clients d'après leur ticket de caisse, par exemple.
Tout à fait.
Le souci c'est que tu as raison, c'est qui décide et qui décide quoi et pourquoi. Parce que je vais donner juste un exemple tout bête, c'est par exemple tu utilises quelqu'un qui utilise Facebook et qui met une photo d'une toile qui représente un nu, et t'as d'un coup c'est un dessin, hein, c'est un truc d'artistique on va dire, et que Facebook quelques jours après dit à la personne vous a retiré la photo parce qu'il faut qu'on l'analyse.
Ça se passe pas comme ça. Non, je veux dire que là c'est de la censure simplement. Oui. Facebook saura plus que non seulement que tu as mis ça sur la toile, mais toute la toile le saura, et les moteurs de recherche au-dessus le sauront.
Mais c'est ça.
Et c'est ça. Et t'as une analyse fine de tes besoins pour savoir.
Pour t'envoyer des trucs.
Alors l'état actuel c'est de la pub, mais voilà.
Alors donc, justement, pour rebondir, je vais donc parler deuxième partie de ce débat, c'est intelligence artificielle, quelle piste pour placer la France dans la compétition mondiale? Donc là, c'est un sujet extrêmement sérieux, puisque le député de l'Essonne et mathématicien Cédric Villani a présenté avec le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoumi, donc le gouvernement, le bilan à mi-parcours de sa mission sur l'intelligence artificielle avec 6 axes clés de travail et l'ouverture la semaine prochaine d'une plateforme collaborative en ligne. Donc on aura le droit en tant que citoyen de participer. Alors, de quoi on parle? Vous allez comprendre. Et ce qui est effrayant, c'est là où tu parlais de 1984, c'est que je vais vous donner les éléments et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc pour lui, donc la question c'est, voilà, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui va révolutionner le monde du travail et notre société. Qu'est-ce qu'on en fait, hein? Donc le but du jeu au départ, c'est de définir une stratégie pour la France, qui est quand même un pays industrialisé, une puissance économique. Hein.
Ça c'est dans leur rêve. Je veux dire, franchement, pour avant qu'elle aille plus loin, je veux dire, pour prolonger le débat, il y a quand même un petit souci.
Attends, je veux te donner les informations parce que ça va te faire réagir. Donc ils disent, dans un premier temps, faut mettre la puissance publique en ordre de bataille parce que la compétition internationale est très intense et chemin pour faire émerger des champions nationaux dans ce domaine-là, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, tu vas me dire, c'est un discours politique, c'est oui, nous sommes la France, la grandeur de la France. Attends, je poursuis. Une véritable politique de la donnée, donc de l'information. Et je te lis. L'ouverture, la mutualisation et le partage de données publiques et privées tout en protégeant les droits et les personnes. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça?
Mais bien sûr, je veux dire, les entreprises ont déjà, les données des entreprises sont déjà ouvertes. La loi est passée là-dessus. Donc, Donald Trump a légiféré dans ce sens pour permettre aux GAFA, c'est bien ça ?
Oui.
De, de pécho, vulgairement, pour dire pécho, les informations personnelles des utilisateurs. Mmh. Donc, alors, moi, je voulais rebondir là-dessus parce que il y a quand même un secteur qui est le plus concerné, et plus que les autres, par ce big data et cette robotisation.
C'est la sécurité ?
Non. Alors oui, bien sûr. Allez, c'est, évidemment, bien sûr. Mais c'est un secteur qui est encore plus important d'un certain point de vue.
Oui.
Eh ben, en fait, c'est le secteur de la finance. Ah oui. C'est-à-dire qu'effectivement, la quantité, la vitesse, la vélocité, comme ils disent, la vélocité des transactions, des transferts, en fait, hein, fait qu'on a, pour analyser à la fois les données et exécuter les ordres, maintenant, de virement à la nanoseconde, il faut des super calculateurs.
Absolument.
Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Ça veut dire que dans cette abstraction qui est devenue la finance, on a maintenant des espèces d'agents qui vont accélérer ce processus. On est déjà dans une économie financiarisée, mais on va vers tel qu'on nous le présente. Hein.
Ah oui.
Bon, par exemple. Mais il y a un deuxième sujet, c'est les assurances.
Voilà,
et là, c'est extrêmement important d'avoir une quantité de robots. Pourquoi ? Pour analyser les risques. Et les risques, effectivement, en matière de catastrophes naturelles, mais aussi en termes de santé, et notamment liés au vieillissement de la population. Donc, c'est là qu'on touche à des sujets qui
Absolument.
Sont un peu sensibles. C'est-à-dire que, quand même, les assurances, on le sait, dans certains cas, font des pieds et des mains pour connaître les maladies de leurs patients. Faut pas se cacher, ça implique des tas de choses, ça implique des choses pour les prêts bancaires, ça implique des choses pour les remboursements au moment où ils contractent leur assurance.
Absolument.
C'est toujours louche. Donc ça, le big data, il va permettre de cibler des populations à risque. Et il va permettre effectivement, tout d'un coup, tu prends une assurance à telle nana, tout d'un coup de voir potentiellement ta cotisation d'assurance grimper. Parce que tu es sujet, alors je sais pas, t'es dans une ville, t'as respiré tant de CO2 à Paris, t'as respiré tant de CO2,
oui, voilà.
Tu auras peut-être je prends un cas un peu extrême,
oui,
tarif différentiel. Et donc, en fait, on est quand même dans deux secteurs, parce qu'on parle de commerce, là, hein, on parle de business, mince. Hein, on est quand même pas à Fréquence Paris Pluriel pour rien, dans mode d'emploi, l'émission d'essayer, pour ne pas parler de business. Et donc, je veux dire, là où tu vas chercher l'argent, c'est là où il est, et là où il est actuellement dans le secteur financier. Dans le commerce aussi, je l'accorde, mais enfin le secteur financier et dans les assurances. Et donc c'est ça, on va avoir un profilage des assurés que nous sommes et de la population afin de leur proposer les meilleurs services.
Car nous sommes
à moyen de contrôle, mais je parle pas encore de contrôle, parce que nous sommes avant tout des clients.
Oui, c'est ça. On est dans les experts, mais les experts sont des robots. C'est ça, c'est l'idée.
Alors, je poursuis sur cette conférence pour eux. Donc, conférence par le secrétaire d'État au numérique et Monsieur Cédric Villani. L'idée, c'est de maîtriser l'impact environnemental et d'axer le développement de l'intelligence artificielle sur tout ce qui est énergie renouvelable, politique de l'environnement. C'est vraiment un champ à définir pour avoir une IA, une intelligence artificielle dotée dans ce domaine. Seulement, et c'est là, t'as très bien développé la problématique, c'est que ils bottent en touche en fait, puisque ils disent il y a par rapport à ce big data et cette intelligence artificielle, il y a un cadre éthique à définir. C'est-à-dire que l'éthique, la confiance et la responsabilité sont cruciaux pour le développement de l'intelligence artificielle, car sinon ces technologies ne seront pas acceptées par les citoyens. Et voilà. Et ça, alors là, évidemment, il ne se positionne pas, ce qui est quand même paradoxal pour un gouvernement. C'est-à-dire que, pour l'instant...
Je veux dire, tu réclames la confiance, c'est ça ? Tout le monde s'en fout. Je veux dire, très sérieusement, ce qui est important, c'est un, les lois qui autorisent l'accès aux données. Donc la question, c'est dans quel sens ?
De sauvegarder le secret de certaines données, effectivement.
Oui,
tout à fait.
Et petit deux, je veux dire, effectivement, on est tous des utilisateurs, obsessionnels d'Internet et des réseaux. Donc, je veux dire, de là à ce que, on ne va pas te demander ton avis, puisque de toute façon, tu utiliseras les outils qu'on te propose. Donc, il s'agit bien d'une régulation au niveau des pouvoirs publics.
Alors, moi, je vais juste prendre la parole quelques instants pour vous, relater une petite anecdote. Je vais pas parler de moi automatiquement, mais je suis sûr que plein de gens sont comme moi. Je viens de découvrir, il y a peu de temps, je vais dire peut-être l'année dernière, qu'il y avait des banques en ligne, et qu'il n'y avait pas de succursale sur le territoire, c'est qu'en ligne.
Absolument.
Et je me suis posé cette question, mais tout seul, dans ma salle de bain, on va dire, en me disant, mais qui pourrait faire confiance à un robot pour donner son argent, si jamais ça dysfonctionne, à qui on va s'adresser pour récupérer son argent?
Alors attention, c'est pas totalement, une banque, les ordres sont en ligne, mais il s'agit bien d'une banque, qui n'a pas d'argent.
Virtuelle. Une banque virtuelle.
Ceci dit, t'as raison de poser la question, parce que dans le cas du Bitcoin, alors c'est pas tout à fait pareil, mais on a réellement une monnaie qui se passe de contrôle, qui est complètement informatique, en quelque sorte, et qui se passe du contrôle de la banque centrale.
D'accord.
Et effectivement, il y a des utilisateurs qui font vivre le truc et qui...
Je rappelle que le Bitcoin, c'est un truc qui... C'est un pari idéologique de geeks qui disent on va créer une monnaie virtuelle qui est reconnue par aucun État et aucune banque, et comme ça, elle aura beaucoup de valeur, mais elle sera universelle. Voilà, je résume.
Oui, mais c'est très étonnant parce qu'on a une monnaie... Bon, la monnaie est par définition virtuelle, quand même.
Absolument.
Il faut le dire, on le sait. Mais une monnaie qui échappe donc au contrôle des autorités... Et qui, en plus, est contrôlé en interne par des logiciels. D'accord? Et par, effectivement, bon, des informaticiens. Mais donc.
Voilà, ça peut être inquiétant, je veux dire, quelque part. Parce que, en fait, ce qui sous-tend tout ce sujet, c'est quand même le progrès.
Alors.
Je vais finir ma phrase. On nous dit souvent, faut vivre avec son temps. Parce que, tu sais, il y a ceux qui sont poètes, qui sont un peu comme moi, un peu comme toi. On a un peu la tête dans la lune de temps en temps. On aime bien aussi les choses terriennes, on va dire. Et qu'on n'est pas toujours au fait de tout ce qui se passe sur la toile, et tant mieux, à la limite. Mais vivre avec son temps, c'est accepter le progrès, c'est pas le progrès doit être au service de l'humain, et pas l'inverse. Et j'ai l'impression que dans ce cadre-là dont tu viens de me parler, là, des emplois qui vont être perdus dans les 30 dernières prochaines années, c'est-à-dire 60% des salariés sur la Terre qui vont perdre leur emploi ou qui vont être obligés...
Non, ils vont avoir une mutation de leur
emploi. Mutation d'emploi, d'accord. Mais ça revient un peu en même, parce que sur les gens qui vont être obligés de se former... Il y en a beaucoup qui vont pas pouvoir, parce qu'il faut...
Ah non, mais ça pose un défi sociétal mondial.
Donc c'est contre... c'est à la limite, c'est contre l'humain, cette histoire de robots qui vont parler, qui vont faire des choses à la place des... J'ai l'impression... Moi, je propose à ceux qui l'ont peut-être pas lu de relire le Macroscope de Joël de René, qui parlait de la systémique, donc tout est dans tout, parce que c'était un livre qui a été écrit en 1980, donc c'est voilà, et qui parle de ça en fait, mine de rien, ouais. qui est très très
l'analyse
intéressant.
L'analyse
des systèmes, absolument. Et moi, ça me fait peur. Moi, j'ai peur de ce progrès qui va trop vite. C'est vrai que ça va trop vite, et on est complètement débordé de toutes parts. Les seuls qui s'en sortent, c'est ceux qui sont à l'origine du projet.
Ou ceux qui sont censés.
Alors, par rapport à ça, j'arrive à la troisième partie de mon débat, et les scientifiques dans tout ça. Parce que eux, ils se posent beaucoup de questions. Donc, génération 2050, la science en ordre de marche, bouleversée par les avancées technologiques, bousculée par les nouveaux modes de pensée, puisque là, on est en train de débattre de ça. La recherche privée et publique est en pleine effervescence du fait de cette intelligence artificielle. Et donc, que disent les chercheurs? D'abord, effectivement, il y aura des nouvelles façons de travailler, mais donc de chercher. Ça, c'est une évidence. Parce que... Ils imaginent, par exemple, en juin 2050, les drones qui livrent quotidiennement les magasins, s'inspirent pour orienter des capacités directionnelles de la mouche. Par exemple, des drones qui utilisent des capacités biologiques de la mouche. Et en fait, ils expliquent que dans cette plateforme et ces colloques qu'ils ont eu, que les disciplines qu'il y a, comme la biologie, les maths, tout ça, elles vont s'imprégner les unes aux autres. Il y aura toujours des spécialités disciplinaires, mais il y aura beaucoup plus polarité. Et donc.
Une sorte de transférabilité
Voilà. Sachant qu'un géologue aura toujours sa spécialité.
Mais j'espère bien.
Etc. Ouais. Et, voilà.
Il sera assisté.
Voilà. Mais il sera assisté.
Pas un robot.
Oui. Voilà. Sauf que, il est clairement, la masse de connaissances va être telle que, ça, à disposition de tous et de chacun que, en fait, le scientifique aura une complémentarité, c'est-à-dire qu'il deviendra, il va avoir la création, de cursus de marketing et de communication scientifique. C'est-à-dire que le scientifique va être médiateur par rapport à tous ces outils numériques. et vulgarisateur. Et ça, ça va être une autre façon de faire du commerce. Seulement, est-ce que un scientifique doit être un outil de commerce? C'est toute la question qui se pose.
C'est toute la question que se sont posées Pierre et Marie Curie, Einstein, etc., quand ils ont trouvé l'atome, etc. C'est ce que j'ai trouvé, ça a servi aux militaires pour faire la bombe, hein, mais ils n'étaient pas là pour ça au départ.
À leur initiative. À leur propre initiative.
Oui, alors.
Et aussi. Parce que, oui, le parce que l'Allemagne, voilà. Bien sûr, bien sûr.
Non, à la limite, ils étaient là pour trouver, pour améliorer le genre humain, enfin, pour améliorer la façon pour que les gens puissent vivre d'une certaine, de mieux, c'est-à-dire avoir de l'électricité là où il n'y en a pas, etc., etc. Et en fait, ça servit simplement aux militaires qui ont récupéré le sujet.
Entre autres. Pas que sur le plan militaire aussi.
Donc, cette histoire de.
Sans l'atome, t'aurais pas. Je sais même pas si t'aurais une télévision.
Peut-être, bien sûr. Non, mais j'entends bien. Mais ça veut dire que bon, il y a à boire et à manger dans cette histoire de robots. On est d'accord là-dessus.
La question, si tu veux. Enfin, je sais pas, on inverse le problème. Le problème, c'est qu'on a. Me semble-t-il. C'est que tu es à un stade d'évolution à la fois de la société et des technologies qui fait que il y a une interdépendance en fait, hein, c'est la société.
Absolument.
De l'information, et donc on va vers des types de sociétés de l'information qui deviennent des systèmes autonomes, c'est-à-dire que dans le cas de Facebook par exemple. Moi, j'aurais pas parié un copec sur la valorisation de, il y a quelques années, hein, la valorisation des réseaux sociaux.
Ouais,
je veux dire, il y a eu un raid des risques, des accidents, des machins. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont rentrés dans les mœurs et leur valorisation va devenir, parce que évidemment, c'était du virtuel, c'est du rien du tout. Mais leur valorisation devient quelque chose de concret, de réel, parce que les utilisateurs n'en démorde pas en quelque sorte, et aussi au passage parce qu'un géant a tout ramassé et qu'il a réussi à s'imposer, à imposer une norme et donc une espèce de marché mondial, voilà. Donc le problème il est là, c'est que t'as un stade de la société de l'information qui fait que tu vas aller au stade ultérieur sur le plan du progrès des individus, mais justement, et c'est toute la question, on ne sait pas où ça va nous mener, en fait. Et la vraie question, d'ailleurs, c'est tout de suite les conséquences sur l'emploi. Et ça, on a... Bon, là, il y avait justement aussi une rencontre, hein, entre des gens, le patron de Google France et puis le directeur de la recherche de Natixis, Patrick Artus, qui n'a pas vu venir la crise financière, je le précise, comme ça. Mais en réalité, on ne sait pas actuellement... Enfin, où on imagine quels sont les métiers qui vont être complètement impactés. Alors, on imagine qu'il y a des emplois de bureau, typiquement dans les banques, ou des emplois dans les assurances, qui eux seront appelés à disparaître. Tout ce qui relève du traitement basique de données, on va dire.
Absolument.
Voilà. Et que du coup, il y a une surqualification vers un besoin d'analyste en quelque sorte de données, de concepteurs. Donc, et avec ce risque-là, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des emplois très très qualifiés d'ingénieurs et de l'autre des emplois de service ou de ce qu'on vit aujourd'hui, hein, qui sont très peu qualifiés et qui sont très peu payés. Et en fait, il y a une accentuation pour le moment des écarts, de l'écart qui se creuse entre les très diplômés, les ingénieurs, les machins, et puis le type qui vend des sandwichs.
Oui, bah, je juste avant que tu reprennes la parole deux secondes, Christophe, moi je suis d'accord qu'effectivement, ces gens-là qui ont décidé de faire ce genre de... Ces grands du monde qui ont le pouvoir et qui sont dans ce sujet, qui proposent ce genre de projet, ou qui sont déjà en train de mettre ce projet en place, hein, on va dire ça comme ça, on peut peut-être oublier quand même quelque chose d'important à mon avis. Alors là, je vais peut-être trouver ça peut-être un petit peu bizarre, mais en dehors du plan politique ou économique, il y a quand même un plan qui est quand même pour moi fondamental, c'est le plan philosophique. C'est-à-dire comment on est au monde, comment on regarde le monde, quelle est la stature qu'on prend, quelle est la position qu'on a par rapport aux choses. Nous, par exemple, dans cette émission, même l'ensemble des bénévoles des émissions politiques de Fréquence Marie Pluriel sont au monde pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas prise, ceux qui ne l'apprendront jamais. On défend des choses. On est dans la gauche radicale. On est dans l'opposition, etc., etc. Tu vois, je veux dire ça, c'est ça l'opposition au monde. On peut être poète, écrivain, on fait ce qu'on veut, on préfère peut-être marcher à pieds nus dans l'herbe qu'aller taper sur l'ordinateur. Ces gens-là ont oublié ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans la robotisation des choses, dans le plan purement économique, comptable. C'est ça que j'entends, moi. Hein. C'est ça que, quand tu me parles de ça, j'entends ça, moi. Ils sont en train de détruire, en fait, le peu de poésie qui reste dans ce monde. C'est-à-dire que quand on va au travail, on y va pour, on va dire, quelqu'un à plein temps, je vais pas prendre trop de temps, mais quelqu'un à plein temps, il va pour, on va dire, 35 heures par semaine. Le reste du temps, il a le temps libre pour aller en vacances, faire des courses, enfin, vivre sa vie, quoi. Mais avec la robotisation, tous ces gens-là vont se retrouver au chômage. Donc, je vois pas l'intérêt, en fait, de tout ça. Donc, moi, ça m'énerve au plus haut point parce qu'en fait, ces gens-là instaurent une justice ou une injustice pour les autres. Mais pour eux-mêmes, eux, ils se l'imposent pas. Je suis pas sûr qu'eux-mêmes auront des robots dans leur.
Sauf qu'il y a une transformation de leur métier, quand même.
Bien sûr. Non, mais c'est quand même. Moi,
parce que c'est ça aussi le problème.
Ah non, mais c'est.
C'est la qualification qui devient un vrai problème.
C'est un remodelage complet du lien social qui va se créer dans les 20 prochaines années.
Et c'est déjà le cas. Hein.
Je trouve ça très triste, a priori. Enfin, je sais pas.
Oui, ça pose des grosses questions sur ce qu'on est, ce qu'on va devenir, et ce qu'on pourrait être.
Non mais je veux dire le remodelage, faut raison garder.
Oui, j'entends bien.
J'espère que t'es pas sur Facebook, Gilles, par exemple.
Si, je suis sur Facebook.
Eh ben c'est une erreur.
Depuis peu.
Eh ben c'est une erreur.
Oui, mais oui.
Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut être exclu ou est-ce qu'il faut non. Est-ce qu'il faut en être? Oui.
Oui.
Tu vis avec ton temps.
Ben je suis bien obligé.
Eh ben c'est bien la réponse. Voilà. Est-ce qu'il faut en être ou est-ce qu'il faut être
À mon avis, on peut très bien vivre sans. Je suis un trap.
Non. Ouais, mais t'y es.
Oui, c'est vrai.
Mais non mais voilà. Après bon.
Bien. Tu avais juste, tu voulais finir sur ça.
Oui, on y est. Que ferons-nous de nos robots et de nos big data, puisque nous sommes des machines à penser et à consommer dans ce merveilleux monde de l'ère numérique, sachant que ça va transformer complètement nos sociétés. Où seront nos gages d'amour et de vivre ensemble, parce que ça va poser beaucoup de problèmes. Toujours est-il que c'est devenu une arme économique terrible et que ça restera encore et toujours un sujet d'actualité d'ici quelques années.
Voilà, moi je voulais juste finir sur cette note.
Oui, vas-y,
bon,
vas-y.
Les choses arrivent, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain en réalité. C'est ça, hein. C'est-à-dire quels sont les réels besoins de la population, quels sont les changements éventuellement brutaux, pas brutaux, qu'est-ce qui peut se passer. Ça, voilà, il y a toujours une part de scepticisme. Voilà, on ne sait pas encore. Je tiens à dire que nous ne savons pas exactement de quoi sera fait demain. Et
très bien,
l'incertitude,
merci.
C'est la plus belle des choses.
Merci beaucoup Ludo, merci à Christophe, merci à Claude pour la technique. Oui, je rappelle bien sûr, Claude, effectivement, la manif de demain déjà, la manif des chômeurs précaires, à la Rotonde à 14h, n'oubliez pas l'heure, 14h à Stalingrad, il faut y venir parce que c'est le rendez-vous annuel des chômeurs précaires et des membres de Fréquence Paris Pluriel. Je rappelle également que le 10 au CICP, il y a un grand raout de Fréquence Paris Pluriel pour permettre à notre radio de survivre un petit peu. Et bien sûr, les 25 ans, tu peux me rappeler la date exacte? Le 15 décembre, c'est les 25 ans de Fréquence Paris Pluriel. Ça fait 25 ans que nous gueulons à ce micro qu'il faut une autre vie à l'ensemble de la population. Et non pas simplement subir la dictate des patrons et des oui Ludo.
Et c'est à la parole errante.
Et c'est à la parole errante. Merci pour la précision pour le lieu. Merci de nous avoir suivis, messieurs dames. Merci messieurs d'avoir fait cette émission avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Bisous aux filles et poignement aux garçons.
Bonsoir à tous et dans un instant Stress et Mécano avec Bruno.
Merci.
Bonsoir.
Ciao.
Fréquence Paris Pluriel à 25 ans.
C'est le bonheur rangé dans une armoire.
Mais on me l'a pas dit. Je te jure, on me l'a pas dit. Ma parole, on vient de me l'annoncer. Là. Concert de soutien le 15 décembre à la Parole Errante de Montreuil. En plus, tu sais pas où c'est. Il faut que t'amènes 10 balles avec toi, mec.
Albert, tu parlais pas sérieusement.
Merde, prépare 10 balles.
Voilà. Tu vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. Thank you.